Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurices d'Ardèche et terres voisines qui nous rejoignez pour un nouvel épisode d'Archivif, votre rendez-vous mensuel qui vous invite à emprunter les sentiers ardéchois pour un voyage entre culture, patrimoine et sport. Un aller-retour qui se fait toujours entre les pages de nos archives locales et avec les voix d'aujourd'hui qui dessinent les récits de demain. Un retour vers le futur ardéchois, on peut dire ça, pour mieux explorer les sept merveilles de notre territoire, donc toujours en partenariat avec les archives départementales de l'Ardèche et en coproduction avec les radios RCF, Fréquence 7 et Radio Desboutières. Je suis Laura, votre animatrice, et aujourd'hui, on prend de la hauteur pour ce sixième épisode d'Archivif.
Archivif.
Direction Sainte-Eulalie, au cœur de la montagne ardéchoise, où se racontent là-bas les histoires de fermes oubliées qui s'érigent aujourd'hui comme des témoins architecturaux d'un temps définitivement passé. Comment faire pour ne pas délaisser cet immobilier précieux qui rend compte d'une époque révolue et pourtant pas si lointaine ? Et comment est valorisée aujourd'hui la mémoire de celles et ceux qui ont bâti et habité ces fermes traditionnelles ? Réponse avec nos invités aujourd'hui qui nous racontent ici et maintenant comment ces constructions particulières ont façonné notre paysage et nos modes de vie. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table avec moi Céline Brière, secrétaire de l'association Liger, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la sauvegarde et la valorisation de l'architecture des fermes traditionnelles, et notamment celle de la ferme de Clastres, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour Céline.
Bonjour.
Yann Kindo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des ateliers musique et danse traditionnelle de l'Ardèche, la FAMTA, si je prononce bien. Depuis plus de 20 ans, vous animez des ateliers dispensant des cours de danse, de musique traditionnelle et vous veillez réellement à raviver la culture folklorique qui était si vivante autrefois. Et vous allez le faire tout prochainement, le 23 août prochain, justement à la ferme du Clastres pour une belle journée d'apprentissage ouverte au public. Je n'en dis pas plus et me tourne vers notre troisième invité, notre fil rouge de cette émission, Enzo Roux, chargé de mission 07 Merveilles de l'Ardèche. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous, bonjour Laura.
Ma première question est pour vous. Aujourd'hui, donc, on se réfugie dans la ferme du Clastres à Sainte-Eulalie. Est-ce que c'est là-haut, les pages d'archives de ce village à 1200 mètres d'altitude sont très abondantes ?
Tout à fait, Laura. Pour fuir la chaleur des basses vallées, nous montons dans la montagne, où Albin Mazon, alias Docteur Francus, parcourait déjà au XXe siècle, même au XIXe siècle, ces contrées, et nous racontait Sainte-Eulalie avec une visite, et il disait ces mots. La commune se compose d'un petit groupe d'habitations, d'apparence très modeste, entourant l'église, et d'une quarantaine de fermes ou métairies isolées. Monsieur Gerbier habitait une de ces métairies. On se mit à table dans la grande salle qui servait à la fois de salon et de salle à manger. Selon l'habitude du pays, les dames, il s'agit ici de deux jeunes filles, s'occupèrent du service et ne vinrent occuper leur place qu'au dessert. L'économie agricole et domestique. L'agriculture est à l'élevage du bétail, les irrigations, les épizooties, la manière de faire le beurre et le fromage, la vente des moutons, tels furent les principaux sujets de conversation. Merci beaucoup aux archives départementales de nous avoir retrouvé cette archive très précieuse qui nous dresse le premier portrait de Sainte-Eulalie.
Oui, et du monde paysan d'autrefois, ici sur le plateau ardéchois. Céline Brière, vous qui êtes secrétaire de l'association Liger, qui vraiment valorise donc ce patrimoine architectural sur le plateau ardéchois, ces fermes. Vous vraiment œuvrez depuis 50 ans à cette sauvegarde, à cette valorisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre histoire de l'association ? Qu'est-ce qui vous a donné, parmi ces pages d'archives que nous a raconté Enzo Roux, qu'est-ce qui fait écho à votre histoire, vous, sur ces lieux, sur le plateau ardéchois ?
Alors, en fait, l'association a été créée en 1975 par Joseph Pouget, qui était natif du village de Sainte-Eulalie, mais qui vivait à Paris et qui, quand il venait à chaque fois, se rendait compte de la lente disparition des chaumières. Donc c'est ce constat alarmant. On avait à peu près, au début du XXe siècle, 1 millier de chaumières. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine. Et la ferme de Clastres est la seule en cœur de bourg, avec une double toiture, en lauze de phonolite et en genêt.
Donc c'est ce constat vraiment du dépérissement des chaumières vous vous êtes dit, il faut vraiment revaloriser, mieux entretenir ce patrimoine-là qui est en train de périr.
Tout à fait, surtout sur la partie chaumière qui, elle, est très sujette aux intempéries et qui doit être entretenue annuellement et qui ont subi de plein fouet l'exode rural. Et puis après, les modernisations des charpentes qui ont fait disparaître progressivement aussi ces fermes.
Combien de sites vous avez essayé de revaloriser, vraiment d'entretenir, pour ne pas qu'ils perdent vraiment leur esprit, leur âme ?
Alors nous, en tant qu'association, on est propriétaire de deux lieux. La ferme de Bourlatier, qu'on a achetée au milieu des années 80 et qu'on a intégralement réhabilitée. Elle était en train de... Le toit était passé à travers au niveau du carré d'habitation. Donc cette ferme a été restaurée avec des partenariats publics et privés et a été mise ensuite en gestion via le département de l'Ardèche. Et c'est toujours le cas actuellement. Et on a acquis la ferme de Classe en 1980. On l'a fait classer en 1984. Et là, on vient de sortir de 3 ans de travaux de restauration de 2020 à 2023. Et en parallèle, on a d'autres actions qui ont été d'aider des propriétaires à obtenir des labels pour défiscaliser, monter des dossiers de souscription, de subvention, ou encore via nos stages qu'on organise chaque année en alternance Lauze et Genêt. On essaye de contribuer au maintien du bâti local via ces stages qui nous permettent également de transmettre le savoir-faire.
Vous arrivez à recenser un peu le nombre de bâtis qui sont peut-être à l'abandon aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être justement revaloriser, appeler aux propriétaires actuels à peut-être avoir ce label ?
Alors en fait, on avait fait un inventaire en partenariat avec le PNR dans les années 2015-2016. Malheureusement, depuis, la situation a pas mal bougé. On a un peu moins de problèmes au niveau de la Lauze, qui est plus facilement habitable dessous, donc qui quand même perdure et le savoir-faire se perd moins. Au niveau du Genêt, il faut quand même se rendre compte que les chaumières en Genêt, toute la partie qui était sous le toit était destinée à stocker le foin. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est dommage de pas y vivre et qu'elles disparaissent, mais c'est très dur de vivre sous ces toitures-là. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de contrer cette lente disparition.
En veillant vraiment à maintenir l'architecture telle qu'elle était à l'époque, qu'est-ce que ça vous raconte de l'histoire de ces lieux de vie ? Est-ce que vous arrivez à avoir des témoignages d'anciens propriétaires, d'anciennes personnes qui ont peut-être participé à la construction, en tout cas à la restauration aussi, ou qui ont vécu tout simplement dans ces lieux ?
Alors, ce qu'il y a de... En termes de paysage, ce patrimoine, déjà, c'est un témoin aussi géologique, puisque tout est fait avec des matériaux locaux. Donc, on a à la fois un aspect botanique et géologique, aussi bien sur les couvertures que sur les murs. Après, au niveau des locaux, ce qui a été très marrant, c'était surtout pendant le chantier de restauration. À chaque fois qu'on découvrait des petits trucs, on se disait « Tiens, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça ?» Et en fait, les gens nous disaient « Ah, mais oui, mais à l'époque, on avait toujours un puits, par exemple, dans une cave pour stocker des produits frais. » Et on découvre des modes de vie qu'on ne connaissait plus forcément au contact comme ça des gens qui ont vécu dans ces édifices.
Et qu'il faut valoriser par leur mémoire, par véhiculer aussi cette mémoire. Quelle est la particularité de la ferme de Clastres que vous avez restaurée récemment ? Qu'est-ce qui fait que cette ferme est particulière et unique ?
Alors, en termes d'architecture, déjà, ce n'est pas une ferme traditionnelle du plateau ardéchois, puisqu'elle n'était pas à l'origine une ferme traditionnelle. C'était une ferme qui était reliée à l'église, donc le bâtiment, l'étable, était relié à l'église. Et c'est qu'après la Révolution française que ce lien a été coupé et que les carrés d'habitation ont été construits. Donc déjà, en termes d'architecture, cette avancée qu'on voit sur toutes les fermes du plateau ardéchois, qui constituent l'entrée des bêtes, l'arcasse, n'existe pas. Après, c'est une ferme qui a une double toiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fermes avec une côté chaumière, piquet de genêt et un côté carré d'habitation Lauze, moi personnellement, j'en connais pas d'autres. Il y en a certainement parce que je ne les connais pas toutes, mais c'est extrêmement rare d'avoir encore des édifices comme celui-ci.
Et donc, vous avez participé à sa restauration. Quels travaux vous deviez vraiment refaire particulièrement sur cette ferme ? Ça a duré quelques années. Vous avez commencé en 2020, c'est ça ?
Alors, on a commencé les travaux en 2020, mais les premières études ont commencé en 2015. Donc, ça a été un très gros bébé à mettre au monde. On a eu une première phase qui a été essentielle, qui a été tout ce qui était consolidation du bâti, puisqu'on avait d'énormes désordres et qu'elle penchait à la fois vers l'église. Les murs s'écartaient, donc il y a eu énormément de confortation des élévations extérieures. Après, on a eu une deuxième tranche de chantier qui a été de conforter tout ce qui était maçonnerie intérieure et charpente. Et puis la dernière phase qui a été le réaménagement en vue de pouvoir l'ouvrir à la visite.
C'était pas trop difficile de devoir répondre aux normes d'aujourd'hui pour pouvoir préserver un patrimoine, un bâti d'hier ?
Alors en fait c'est très difficile, mais en même temps c'est vrai qu'on a beaucoup de compréhension en face, notamment de tout ce qui est DRAC, UDAP et au niveau des ABF. Voilà, on peut pas moderniser complètement et rendre accessibles complètement ces édifices. Donc c'est vrai que voilà, on a essayé d'avoir un bon compromis pour accueillir le plus de monde possible sans dénaturer le bâti.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui à la ferme du Clastre ? Qu'est-ce qu'on peut visiter ?
Alors la ferme de Clastre aujourd'hui, alors c'est une ferme qui a été habitée jusque dans les années 80. Donc il n'y avait plus de mobilier à l'intérieur, il n'y avait plus de traces du passé comme on pourrait voir dans d'autres fermes qui sont à la visite. Par contre, on a énormément engrangé d'histoires sur ce lieu. Donc aujourd'hui, on fait essentiellement des visites guidées du bâti qui sont axées sur l'histoire du lieu, l'archéologie qu'on a fait sur place, l'architecture et la vie des gens à l'époque sur place.
Un peu un musée qui est devenu aussi un certain musée, mais vraiment très simple, vraiment à l'image de ce qu'il était autrefois.
Elle est vraiment dans son enveloppe d'origine et on arrive quand même à faire de belles visites guidées qui durent 1h15, 1h30 avec les gens.
Une valorisation aussi de l'extérieur, des jardins ?
Alors oui, on a des bénévoles de l'association, puisque l'objet de l'association, c'est la sauvegarde et la valorisation des paysages et de l'architecture. Dans le cadre de la valorisation des paysages, on a voulu créer un jardin botanique qui nous permettait de voir toutes les essences qui sont extrêmement nombreuses au niveau du plateau Ardéchois. Il y en a plus de 1200 qui sont recensées. Il y avait de grosses foires à l'herboristerie à l'époque. Et donc, on a essayé de recréer les milieux naturels qu'on peut rencontrer en randonnée sur le plateau. La rocaille, les sous-bois, les milieux humides. Et voilà, et c'est un très très beau jardin là en ce moment.
Vous comptez, je crois, de nombreux bénévoles au sein de l'association pour pouvoir valoriser ces trois sites.
On a de précieux bénévoles en effet. Alors il y en a qui sont quasiment que dédié au jardin, d'autres qui s'occupent plus de la partie ferme. Et pour le jardin, bien évidemment, on se fait épauler d'un jardinier l'été, puisque c'est sur le plateau Ardéchois, la saison printanière est condensée et tout explose en très peu de temps.
C'est vrai. Mmh. Et donc, on parle du passé, de son héritage. Pour plus tard, comment vous l'imaginez ce lieu ? Est-ce que vous envisagez d'autres projets, justement, d'inclure peut-être un public plus, de manière plus permanente ou des événements un peu plus artistiques, culturels ?
Alors là, on a passé un peu 8 ans la tête dans les travaux. Donc, c'est vrai qu'on est en train de se pencher justement sur le modèle de gestion future de la ferme de Clastre afin de pouvoir l'ouvrir le plus possible et animer le lieu beaucoup plus fréquemment que maintenant.
Il va être animé cet été, donc en août, on va en parler justement. Mais d'abord, on continue à parler de notre héritage culturel, de notre héritage folklorique également, avec la Fédération FAMTA, donc Fédération, si je ne me trompe pas, que je retrouve l'intitulé...
Des associations de musique danse traditionnelle d'Ardèche.
Exactement, merci Yann. Donc vous œuvrez vraiment à valoriser la culture folklorique, les danses et musiques traditionnelles, en animant beaucoup d'ateliers, de stages, d'apprentissage autour de la musique et de la danse. Pouvez-vous nous présenter d'abord votre fédération, son histoire ? Depuis quand œuvrez-vous à la valorisation de cette culture ?
La fédération, elle est née en 2004 de la volonté de regrouper les différentes associations ardéchoises ou de territoires immédiatement limitrophes pour créer des effets de synergie, agir ensemble et avoir un moment de rencontre annuel de ces associations qui, en fait, est devenu le Festival Trad Ardèche, qui est un peu le gros festival de musique traditionnelle sur le département. Aujourd'hui, elle regroupe 23 associations membres. Et on a également un site internet qui est conçu un peu comme le lieu où on peut avoir les infos sur tout ce qui se passe dans notre domaine en Ardèche, les événements, mais aussi si vous débarquez en Ardèche et que vous dites où est-ce que je peux aller pratiquer la danse, où est-ce que je peux apprendre un instrument avec une orientation musique traditionnelle, où est-ce que je peux jouer avec d'autres gens. Voilà, on essaye de collecter ces informations-là et de les proposer à ceux que ça intéresse.
Donc c'est aussi une vraie mise en réseau entre toutes les associations qui participent à proposer des bals, des stages d'apprentissage d'instruments de musique traditionnelle.
Voilà, c'est ça. C'est à la fois mettre en réseau, soutenir les associations qui veulent se développer dans des endroits où, notamment des parties du territoire où il n'y en a pas, Et puis, par ailleurs, la fédération, on y reviendra, elle mène ses propres projets qu'elle propose à ses associations et au public.
On va en parler justement, mais avant, j'aimerais savoir pour informer nos auditeuristes qui ne savent pas trop ce que sont les danses et musiques traditionnelles, de quoi s'agit-il ? Comment vous le définissez ?
Ouais, c'est pas facile à définir ce qui est traditionnel. Je crois qu'en anthropologie, on dit que quelque chose est traditionnel quand il a passé le cap de 2 générations et s'est installé et continue à être transmis. Donc là, nous, on parle de danse et de musique qui ont été collectées à différents moments de l'histoire. Il y a eu un gros mouvement de collectage au 19e siècle avec la montée du romantisme face à l'essor de la société industrielle où des gens se sont dit cette société paysanne traditionnelle, elle a un intérêt. C'est George Sand dans le Berry qui met ça en avant dans ses romans, ou Vincent Dindy en Ardèche qui va collecter des chants de paysans et qui a produit un recueil où lui a mis en partition des chansons et des musiques jouées par les paysans. Voilà. Et il y a un gros mouvement de collectage sur lequel nous on vit beaucoup, qui date des années 70. Après mai 68, il y a un mouvement de jeunes gens qui vont avec leur micro dans les montagnes, dans les endroits, et ils toquent aux portes des maisons, ils disent « Est-ce qu'il y a des gens qui chantent ici ?» Et ils ont collecté, ils ont enregistré. On a quelques témoignages aussi des vidéos de gens qui dansent la bourrée en Auvergne, des films en noir et blanc des années 50 qui donnent une idée de comment c'était avant que cette société ne disparaisse. Voilà. Et donc souvent, c'est des bals folk. Oui. Alors, le mouvement folk est né un peu en rejet des trucs folkloriques en costume. Les gens n'essayent pas d'être en costume. Mais par contre, ils essayent de faire vivre ça. Et donc, dans le répertoire des danses folk, y a des danses qui sont issues de la Renaissance, comme les branles. Et souvent, il y a aussi beaucoup de danses qui ont été réinventées. Y a des danses qu'on croit traditionnelles, mais qui sont issues des ateliers de la fin des années 60. Et beaucoup de danses aussi, donc ça, c'est des danses collectives, souvent. Et puis aussi, beaucoup de danses qui sont les danses de couple du 19e, comme la valse, la polka, la mazurka, des danses venues d'Europe de l'Est et qui sont répandues et qui continuent à être pratiquées.
Pratiquer, oui, il y a une certaine dynamique aujourd'hui, surtout en Ardèche, à l'approche des beaux jours, où de nombreux bals ont lieu souvent dans des petits villages pour vraiment. Et ça rassemble, j'ai l'impression, différents publics, jeunes comme personnes âgées. Et c'est ce mélange des générations permet vraiment une émulation sociale dans un petit village isolé comme ici en Ardèche.
Ouais, alors c'est très vrai partout, en fait. Il n'y a pas de phénomène spécial à l'Ardèche ou aux campagnes. Mm-hmm. Par exemple, il y a des bars à Paris qui font des bals folk et des soirées folk qui marchent très bien, avec effectivement comme souvent dénominateur commun, ce qui fait un peu la spécificité, c'est que c'est des pratiques culturelles qui font que c'est vraiment de 7 à 77 ans et ça brasse des générations. Le fait est qu'il y a un renouveau depuis quelques années, notamment depuis la fin du Covid, avec beaucoup de monde et beaucoup de jeunes qui viennent dans les bals et qui découvrent ces danses qui s'y mettent. Il y a plein de reportages dans les médias en ce moment, un peu partout en France, où on fait les petits bals traditionnels qui reviennent à la mode. TF1 était venu faire un reportage à Trad-Ardèche chez nous l'an dernier. Il y a vraiment un renouveau en ce moment, ouais, c'est clair.
Et vous parliez des chants de paysans. Dans ces chants, j'imagine, chantés en occitan, d'un certain patois qu'aujourd'hui on a perdu, qui essaye d'être valorisé. Qu'est-ce que ça raconte de la culture et des croyances populaires de l'époque ? De quoi on parle dans ces chants ?
Alors, il y a des chants qui ont... Il y a des types de chants, par exemple. Il y a le chant sur le mois de mai. Il y a toute une série de chants. Par exemple, Malicorne, dont on va parler tout à l'heure, en a fait, où c'est le mois de mai, le joli mois de mai qui revient, etc.
Bon, sortir de chez soi, rencontrer
ouais, c'est le
les
moment
gens,
où
danser.
Voilà, on célèbre le retour du printemps et tout ça. Alors je sais pas, on va créer des nouveaux chants sur c'est la canicule qui arrive maintenant pour les années qui viennent. Il y a des chants typiques aussi qui sont des chants de filles à marier. Et là, il y a un phénomène intéressant parce que il y a un problème pour les jeunes générations qui veulent s'emparer de ce répertoire, c'est le côté très sexiste des paroles, très marqué. Et il y a par exemple des groupes qui sont pas loin de chez nous comme Clume. Et des groupes qui écrivent aujourd'hui des chansons en occitan, qui jouent avec les codes de ces textes traditionnels sur la fille à marier, mais avec un point de vue très différent, qui est elle se mariera avec qui elle veut au final. Voilà. Et donc,
Une réécriture, mais dans le respect de l'héritage de ces chants.
Voilà, les codes sont là, mais le sens a changé afin de ne pas transmettre un bagage qu'on n'a plus envie de transmettre aujourd'hui.
Et même dans les danses, aujourd'hui, quand on est invité dans des bals ou dans des ateliers, quand on ne sait pas pratiquer vraiment le bal folk, eh ben on n'est pas forcément obligé d'être avec un leader masculin et une suiveuse féminine. Au contraire, on peut varier, on peut être garçon, fille et fille, femme, peu importe.
Oui, il y a des grands débats sur le vocabulaire à utiliser, oui. Parce que les rôles sociaux sont hyper genrés, oui. Traditionnellement. Mmh. Bon, aujourd'hui, il y a une vraie volonté, souvent, notamment dans les jeunes générations, mais pas que, de dépasser ces rôles sociaux genrés. Et donc, on va essayer de dire les A et les B, plutôt que de dire les garçons et les filles, par exemple.
C'est ce que vous essayez aussi de mener dans vos projets d'ateliers que vous animez autour des bals, également l'apprentissage d'instruments. Il y a cette transmission un peu plus moderne aujourd'hui de cette culture folk ?
Oui, on essaye. Alors la FAMTA est une fédération qui essaye de garder les pieds dans les deux, c'est-à-dire... on garde un lien très fort avec le trad traditionnel, voilà, et notamment des répertoires de danse collective qui tendent aujourd'hui à décliner face à une espèce de montée de l'individualisme qui fait que des gens dansent de plus en plus à deux, voire seuls. Mmh. Donc nous, parmi nos projets, il y a un projet qui s'appelle « Collectivisons les danses collectives » qui consiste à apprendre, à connaître et surtout à transmettre des danses qui gardent ce côté très collectif. Mmh. Il y a ça, mais en même temps, on a d'autres projets qui portent plus autour de ce qui se fait aujourd'hui sur la réinterprétation, la composition, les arrangements modernes autour de musique traditionnelle.
D'autres dates à venir, justement, parce que vous organisez souvent des stages à la journée, des formations également pour animer ces ateliers ces temps-là. Une date, un temps fort qui arrive cet été, à la fin du mois d'août ou à l'automne ?
Alors, la fin du mois d'août, ça va être la journée avec Sorgue.
On va en parler.
Si j'en parle tout de suite
pas
ou
tout
après.
De suite.
Ok, d'accord.
Oui.
Sinon, on a deux temps forts sur la fin de l'été et l'automne, qui va être le 21 septembre, c'est les journées du patrimoine. Et donc là, les journées du patrimoine, on va faire une initiative à Saint-Vincent-de-Barrès, à côté de Privas, dans un petit village un peu perché, et dans lequel on va faire une journée autour des musiques et danses du Dauphiné. Avec un stage de musique, un stage de danse et puis un spectacle le soir sur le colportage des mélodies des violoneux du Dauphiné. Et puis le deuxième projet, le 12 octobre, on va faire une journée avec Malicorne, autour de Malicorne, pardon, pas avec Malicorne, qui était, si vous voulez, dans le revival des années 70, il y a une espèce de sainte trinité des groupes qui ont porté ça à une échelle publique, qui sont Alan Stivell, Trianne, et Malicorne était le troisième de ces groupes qui s'est vraiment emparé du répertoire médiéval et qui l'a modernisé avec des instruments électriques par-dessus. Bon, ils sont très symboliques de ça. Et on va faire une journée pour apprendre à chanter et à danser et à jouer, pardon, les arrangements typiques de Malicorne avec quelqu'un qui vient du monde du classique, Aurad Muraille, qui a fait sa thèse sur Malicorne et qui va nous enseigner tout ça.
Il y a un événement qui arrive prochainement dont il faut qu'on parle, qui fait partie du programme 07 Merveilles de l'Ardèche. Le programme, c'est le programme de la cinquième date et ça a lieu à la ferme du Clastre, tout simplement, avec le trio Sorgue et le concert prévu le 23 août. Yann Kindo, pourquoi ce trio Sorgue, vous avez fait appel à eux ?
Alors, parce qu'ils remplissaient beaucoup de critères de ce qu'on voulait faire ce jour-là. C'est un groupe dans lequel il y a du chant, il y a un instrument traditionnel qui est le violon. Dans le monde du trad, on parle des violoneux plutôt que des violonistes pour désigner cette manière de jouer. Et il y a également, ce que je vous disais, des volontés de changer l'instrumentarium avec Noéline Yulou qui joue, elle, du violoncelle. Là-dedans, qui n'est pas un instrument typique des musiques traditionnelles. Voilà. Donc ça correspond bien à ce profil-là. C'est un groupe qui chante largement en occitan et dont le répertoire collait bien avec ce qu'on avait envie de faire, qui était cette fois-ci un concert plutôt qu'un bal.
Donc on va les découvrir le 23 août et avant, dans la journée, il y a un stage que vous organisez.
Ouais, parce que le principe du monde des musiques et danses traditionnelles, c'est que c'est un milieu qui est très associatif, dans lequel on refuse en quelque sorte la coupure entre les artistes professionnels et les pratiques amateurs. Et il y a un peu ce principe qui est que quand on fait venir des gens, on leur demande de nous transmettre aussi leur savoir-faire en tant que professionnels. Et donc là, il y aura deux stages dans la journée qui sont gratuits, comme le concert du soir. Et le premier stage est un stage de chant avec Clément Gauthier, le chanteur du groupe, qui va porter sur l'interprétation de la bourrée trois temps en occitan. Voilà. Mmh. Donc chanter la bourrée trois temps, qui est cette bourrée typique d'Auvergne, la chanter en occitan. Et le stage de violon est animé par Basile Brémaud. Et il va porter sur le répertoire d'Auvergne et du Massif central.
Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ce stage ?
Oui, c'est mieux. Alors, il ne reste plus beaucoup de place pour le stage de chant. Et pour le stage de violon, on voudrait aussi savoir à l'avance. Il y a 12 places qui sont possibles pour des stages de ce type-là pour que ça puisse bien se passer.
Mmh. Donc, ce concert le 23 août à la ferme de Clastres, c'est également une opportunité pour découvrir ce beau patrimoine qu'est la ferme que vous avez valorisée au sein de l'association Ligère. Donc, on peut découvrir, Céline, j'imagine, la ferme où vous organisez des visites.
Oui, on organise des visites tous les jeudis de l'été et on ouvre aussi au groupe sur demande. On sera ouvert aussi les deux premiers jeudis de septembre ainsi que les journées européennes du patrimoine. Et à l'occasion de 07 Merveilles, on pourra aussi accueillir Elodie Blanc en fin de journée qui nous fera une visite comptée de la ferme de Clastres et qui est absolument fantastique. Elle vous embarque avec elle dans son voyage dans le temps, dans la ferme. Donc, ça sera un très, très joli moment.
Et on pourra même faire son petit marché. Je crois qu'il y aura un petit marché de producteurs.
Alors, on espère qu'on va pouvoir faire ça. On espère qu'il restera des stocks parce que les producteurs sont dévéralisés en été.
Évidemment. Est-ce qu'il y aura d'autres occasions pour découvrir ce lieu, à part le 23 août, peut-être à l'arrivée de l'automne ?
Oui, pour les JEP. Et encore une fois, jusqu'à la Toussaint, on reste ouvert au groupe sur demande.
Bah merci beaucoup Céline Brière donc de l'association Ligère qui valorise ce beau patrimoine de la ferme de Clastres et également deux autres sites emblématiques sur le plateau ardéchois. Je vous invite à aller sur le site associationligere-ardèche.org. Et merci à vous Yann Kindo donc pour la FAMTA qui valorise vraiment les danses et musiques folk et traditionnelles. Le prochain podcast, Enzo, je me tourne vers vous, d'Archivif. Il va parler de quoi ?
Ah ben, juste avant, je précise, donc, le concert aura lieu à 20h30.
Ah oui.
Rendez-vous pour tous à 20h30.
On n'avait pas dit l'horaire.
En extérieur. Et la visite à 16h. Toutes les informations seront à retrouver sur le site soit du département, donc ardèche.fr/07merveilles, ou sur le site de l'association Ligère.
Okay. Donc, visite à 16h et concert à 20h30.
Et le concert après à 20h30, exactement. Et on vous conseille quand même de vous inscrire. Pareil, on a un forms mis en place directement sur le site du département. Donc, allez voir et vous recevrez toutes les informations pratiques pour cet événement du 23 août. Et le prochain podcast, on change un peu de cap, on sort de la culture plus traditionnelle, on sort des concerts, du théâtre qu'on a déjà beaucoup abordé cette année, et on va sur un événement qui s'annonce un peu plus sportif, au château de Rochemort. Voilà, on redescend un peu en Ardèche, sur la vallée du Rhône, pour un événement qui va mêler escrime, pétanque et d'autres sports à découvrir au château de Rochemort.
On n'en dit pas plus, merci à vous trois. On se quitte, vous l'entendez, le trio s'orgue dans vos oreilles avec Prenez le bon temps en occitan. À bientôt sur les ondes ardéchoises. Que la vez, que se les falta, que no pasará.
voyage entre culture, patrimoine et sport, au cœur du département de l'Ardèche.